Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, que je vous lis les versets 18 à 25. Évangile selon Matthieu, chapitre 4. C'est le début du ministère de Jésus de Nazareth. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et ils le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On l'écoutait jusqu'en Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Éternel, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous au creuset de ta vérité. Amen. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, je vous invite à ouvrir la page comportant le numéro 407 pour que nous chantions ce cantique « Ô croyons que Dieu nous donne », les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 407.
Thank you.
Dieu notre Père, dont la parole s'est inscrite dans notre chair, en Jésus-Christ, toi dont la parole illumine le monde et son histoire, afin que l'homme puisse non seulement croire, mais aussi répondre à ton appel, répondre de ses actes. Ouvre mon oreille à cette voix qui retentit dans le désert. Aide-nous à garder notre cœur ouvert pour accueillir ton évangile. Chers frères et sœurs, croyons que Dieu nous donne tout ce qu'il promet. J'aimerais commencer par m'interroger sérieusement sur la réalité de cette phrase avec deux autres versets bibliques d'ailleurs, deux versets particulièrement connus, le début du psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et puis aussi un autre verset dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, Jésus qui dit à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Bon, si c'est moi qui lis ce verset, d'accord, je dirais c'est plausible. Mais si c'est un habitant de Madagascar qui lit cela, ou un Parisien de 55 ans qui, après avoir été licencié pour motif économique, après avoir passé de longs mois à rechercher en vain un nouveau travail, alors qu'il a encore deux enfants à charge et qu'il n'a pas fini de payer les traites pour le remboursement de son prêt immobilier, je pense que ce verset reste un peu plus en travers de la gorge. L'évangile de Jean, « Je vous laisse ma paix ». Si c'est moi qui lis, soit, tout va bien. Mais si c'est un Syrien qui lit ce verset. La question c'est, est-ce que l'évangile serait réservé à une frange de la population ? Est-ce que l'évangile serait vrai en certains lieux, mais pas de manière universelle. Ces deux versets sont en contradiction radicale avec tant de situations et en harmonie avec si peu de situations. Il y a tant de personnes dans le monde qui manquent de tout et tant de personnes qui ne savent même pas ce qu'est la paix. Comment fonctionne l'évangile dans ce cas-là ? Parce que, bien évidemment, il ne faudrait pas faire une lecture et une interprétation de ces versets qui seraient réductrices, au point que ne manquer de rien, ce ne serait simplement que ne pas manquer d'une bonne parole. Ou la paix du Christ, ce serait simplement être en paix avec Dieu ou avec soi-même. Ne manquer de rien, la paix ne saurait être réduite à sa part congrue. La nourriture et la sécurité sont des besoins élémentaires, vitaux, dont la vie spirituelle doit s'intéresser sérieusement, à moins d'être une sorte de légende urbaine inventée par quelques-uns qui ne manquaient de rien mais s'ennuyaient copieusement et ont décidé de s'occuper. Ce qui est en jeu dans ces deux constats, c'est la providence divine. Comment le divin pourvoit-il à nos besoins? Comment ces belles paroles religieuses deviennent-elles réelles? Alors, pour essayer de répondre à cette question, je vous emmène à la rencontre de Jésus de Nazareth, dont la fonction de Messie consiste justement à incarner l'espérance de Dieu. Donc, si nous voulons voir comment fonctionne la providence divine, mettons-nous à l'école de celui qui est censé la réaliser. Justement, dans le passage que j'ai lu ce matin, nous avons le récit de Jésus qui proclame la bonne nouvelle, qui guérit des infirmités, des maladies, tant et si bien que ce qu'il dit est écouté bien au-delà de son cercle privilégié, jusqu'en Syrie, dit le texte. La question pour nous ce matin n'est pas d'approfondir ce que signifient ces guérisons dont nous avons parlé par ailleurs, mais de comprendre comment le Christ parvient à faire du bien aux personnes croisées. Comment il réussit à concrétiser la bonne nouvelle? Comment cette bonne nouvelle parvient à ne pas rester simplement un gentil discours dans des cénacles autorisés? Alors pour cela, je crois qu'il convient de remonter d'un cran dans le texte et d'obtenir quelques résultats intéressants en nous intéressant plus spécifiquement à l'appel de ceux qui seront les disciples de Jésus. Ces vocations, ces quatre vocations, vont nous permettre de mettre à jour le processus par lequel Jésus réalise la bonne nouvelle. Un processus en quatre étapes que le Christ met en œuvre et qui constitue l'art de Jésus qui se révèle comme un faiseur de situations. Et c'est cela que j'aimerais retenir de ce passage. Jésus, un modèle de faiseur de situations. La première étape, c'est un regard. Celui que Jésus pose sur Pierre, sur André, sur Jacques, sur Jean. Le narrateur, par deux fois, dit que Jésus voit. Il voit ces couples de frères qu'il va appeler. Ce regard est absolument décisif, c'est le point de départ. Il témoigne que ces individus ne sont pas transparents aux yeux de Jésus, qu'ils ne sont pas insignifiants. Vous savez, des pêcheurs sur le lac de Galilée, c'est un peu comme des protestants à l'Assemblée du désert le premier dimanche de septembre. C'est une sorte de masse informe. Sauf pour celui qui a le regard suffisamment exercé pour reconnaître en chacun un être singulier. Et le huguenot depuis toujours reconnaîtra non seulement un être particulier, mais en plus un cousin. Eh bien ici, c'est le cas de Jésus. C'est le cas de Jésus qui distingue dans la masse des pêcheurs ces deux couples de frères qu'il appelle. Il a posé un regard favorable sur eux, un peu à la manière de ce que nous disons à l'occasion des baptêmes, l'Éternel qui porte un regard bienveillant sur la personne qui est baptisée. Et voir quelqu'un, c'est lui donner une existence. C'est le faire venir au monde, au moins à notre monde. Il commence au moins à exister pour nous, ce qui est le premier pas d'une existence plus large. N'est-ce pas aussi ce que fait la personne qui encadre le groupe de condamnés qui doivent s'acquitter d'heures de travail d'intérêt général dans le film « La part des anges ». Parmi ces gens sans importance, parmi ces gens sans apparence, qui n'ont d'autre talent que celui d'enfreindre la loi, l'éducateur voit l'un des délinquants, un peu à la manière de Jésus, qui voit ces hommes près du lac de Tibériade, de la mer de Galilée, et qui lui fait confiance. Il croit en lui. Et il va tellement lui faire confiance qu'il va lui faire découvrir quelque chose, ce qu'il y a peut-être pas de plus important pour lui, mais ce qui compte vraiment dans sa vie, le whisky. Au départ, un regard un peu comme celui de Jésus, un peu comme celui du bon samaritain, un regard qui est mu aussi par le fait qu'on est pris aux entrailles et que l'éducateur ne peut pas laisser ce jeune délinquant à moitié mort en bas de l'escalier. De même que le bon samaritain ne peut pas laisser cette personne à demi-morte sur le chemin qui mène de Jéricho jusqu'à Jérusalem. Au départ donc, un regard qui fait sortir du lot, du déterminisme, qu'il soit social, religieux, linguistique, génétique. Au départ, un regard qui fait venir au monde. Et à partir de ce moment, commence le processus actif par lequel Jésus est faiseur de situation. Il s'adresse à des individus et il les reconnaît dans ce qu'ils font. Il le fait en jouant sur le mot « pêcheur ». En leur promettant d'en faire des pêcheurs d'hommes, il commence par reconnaître implicitement que dès à présent, ils sont pêcheurs. Il les reconnaît pour ce qu'ils font, il les reconnaît pour ce qu'ils sont. Et cette deuxième étape, c'est celle de la reconnaissance. Voir, puis reconnaître. Et cela, c'est le socle sur lequel tout le reste pourra être édifié. Voilà une chose certaine sur laquelle on va pouvoir construire la suite de l'histoire. Ça signifie que le regard de Jésus est tout le contraire des regards méprisants en forme de « tu es nul, tu n'es pas intéressant, tu ne vaux rien, tu es un moins que rien ». Jésus est vu, Jésus a vu, et il a reconnu en eux des êtres capables de certains accomplissements. Il envisage la mission à venir à partir d'une réalité qu'il nomme et qui devient aussi une réalité pour ceux qui sont concernés. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on est au cœur de l'action, lorsqu'on est au cœur de son métier ou au cœur de ses soucis, et qu'il n'y a plus que cela qui occupe notre temps, qu'on n'a que ça dans la tête, eh bien, il n'est pas rare qu'on ne voit plus très bien l'intérêt de ce que l'on fait ou de ce que l'on est. Parfois, il y a même un sentiment d'inutilité qui commence à nous gagner, voire des formes de dépression comme les burn-out que connaissent la plupart des travailleurs sociaux, qui ont l'impression que ce qu'ils font ne sert à rien, qu'on n'avance jamais, qu'on retourne toujours à la case départ. Cette parole de reconnaissance donne de la consistance à ce que sont et à ce que font ces hommes-là auxquels Jésus s'adresse. Et à partir de là, la suite de l'histoire peut être écrite. À partir de là, troisième étape, Jésus tisse des relations. Voir, reconnaître, relier. Nous sommes au cœur de ce processus de faiseur de situation. Jésus crée une situation où les pêcheurs vont être au contact de nouvelles personnes, dans un nouveau contexte, pour une nouvelle mission. Ce que fait Jésus, c'est de reconfigurer leur réel. Il leur ouvre un nouvel horizon. Et les pêcheurs vont donc pouvoir sortir de la reproduction du quotidien et faire à leur tour histoire, devenir acteurs. C'est au directeur de la Clairière, ce centre social fondé par notre paroisse il y a bientôt 101 ans maintenant, Gilles Petitgat, que je dois cette expression « faiseur de situation ». Et Gilles Petitgat l'illustre par un épisode vécu il y a quelques années lorsqu'il était lui-même éducateur spécialisé et lorsqu'il a proposé à un jeune vivant de petites combines, une sorte de racaille, il lui a proposé de venir en aide à une personne âgée, de l'aider à déménager dans cette maison de retraite où on lui avait trouvé une place. Et comme le dit Gilles Petitgueil, il y a eu une véritable rencontre entre ce jeune et cette dame, pour laquelle il s'est véritablement pris d'affection. Donc il ne s'est pas contenté de faire ce qu'on lui a dit de faire. Il a aussi pris soin d'elle, veillant à ce que la nouvelle installation soit la plus confortable possible pour cette personne. Cette nouvelle configuration, le fait de sortir de ses logiques, le fait de le sortir de son milieu, cette nouvelle configuration lui a donné l'occasion d'envisager la vie avec une nouvelle logique, avec sa logique propre, sans le regard coercitif des relations habituelles qui l'enfermaient inexorablement dans un rôle dont il était prisonnier. Et la finale de cet épisode est tout à fait édifiante. Et elle nous conduira au quatrième point de ce processus. La vieille dame, au moment de dire au revoir à ce jeune, elle lui dit « Ah, si tous les jeunes étaient comme vous, il y aurait moins de problèmes. » Lui qui était un délinquant. Lui qui se considérait comme un moins que rien. Lui qui se considérait comme un incapable. Faire des situations, c'est mettre les personnes en situation de faire quelque chose dans un nouveau contexte. Il s'agit de mettre tous les éléments en relation, les uns avec les autres, à rien de plus. Il n'est pas question de forcer. Jésus ne vient pas prendre ses pécheurs par le col pour les emmener à sa suite. Il est question de proposer, de faire en sorte qu'autre chose que l'horizon bouché soit disponible. La quatrième étape, donc, celle que la dame indique, c'est celle de la transcendance. Ce jeune a été transcendé dans l'image de soi. Il n'était plus le même avant et après. Le jeune homme a tout simplement connu une estime de soi que jusque-là, il ignorait absolument. Sa dignité a été restaurée. Sa dignité a été littéralement transcendée. Il n'est plus le petit délinquant, il n'est plus le paumé. Il est devenu non seulement un alter ego pour quelqu'un qui, jusque-là, ne partageait vraiment pas sa condition, mais mieux que cela. Cette dame en a fait un modèle auquel il était possible de se référer. Les pêcheurs, quant à eux, ne seront plus des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'hommes, ce qui est bien différent par la nature. C'est une nouvelle étape sur le chemin de leur vie, un nouveau stade. Ce n'est pas l'ascenseur social, mais c'est l'ascenseur existentiel. Leur vie va prendre une nouvelle envergure. Ces pêcheurs vont accéder à ce qui était pour eux jusque-là un état surnaturel de l'être. Comment cela se fait-il? Eh bien, par ce processus vécu en compagnie du Christ qui rend présent ce qui nous préoccupe de manière fondamentale, même si nous n'en sommes pas toujours bien conscients. Je reviens au film « La part des anges ». Ce jeune délinquant est placé face à ses responsabilités parentales par la mère de son enfant qui vient de naître. Elle le met en demeure de s'interroger sur ce qu'est être père. Il est donc placé face à une forme de l'ultime. Et conjointement, il est mis dans une situation de confiance et de succès par son éducateur, qui, l'ayant initié au whisky, en a fait un amateur éclairé, qui sera reconnu par les spécialistes écossais en la matière. Les pêcheurs de Galilée se retrouvent eux aussi face à un univers plus grand que leur univers familier. Ils sont, eux aussi, placés face à une autre manière d'être pêcheur. Ils sont hissés à la hauteur d'une nouvelle humanité, non plus simplement pêcheurs de poissons, mais pêcheurs d'hommes. Et cela leur pose nécessairement la question, qu'est-ce que l'homme? Pour que l'on s'en préoccupe. En devenant pêcheurs d'hommes, ils vont aussi avoir accès à cette humanité authentique en ayant profité du processus mis en place par Jésus. Et parce qu'ils ont été au bénéfice de ce processus, ils vont à leur tour pouvoir enclencher un processus pour les personnes qu'ils vont rencontrer. Ils seront à leur tour agents de la providence de Dieu, providence qui ne consiste pas à distribuer avec largesse ce que les uns et les autres rêvent d'avoir, providence qui consiste à créer de nouvelles situations pour sortir des impasses et des répétitions de scénarios mortifères. Pourquoi est-ce que la suite de l'histoire fonctionne? Pourquoi est-ce que Jésus parvient à accomplir ses guérisons? Pourquoi est-ce qu'on l'écoute jusqu'en série? Précisément parce qu'il n'est pas seul, parce qu'il y a des relais. Et au fond, le Christ, c'est la figure récapitulatrice de tous ces agents de la Providence qui mettent en place ce processus. Néanmoins, méfie, comme on dit à Marseille. Être faiseur de situation est assez précaire. Je veux dire que les films, c'est intéressant. L'Évangile, c'est intéressant. Mais ça ne fonctionne pas systématiquement. Et il ne faudrait pas vivre dans l'illusion qu'animé d'une foi splendide, nous arrivions à réaliser de façon automatique les promesses de l'Évangile. On peut rassembler de nombreux éléments favorables sans qu'une situation se débloque. Soit parce que la nouvelle configuration n'est pas suffisamment bien adaptée, soit parce qu'il y a des oppositions qui font obstacle à un dénouement heureux. Certainement, on pourrait imposer la paix en Syrie, comme Rome le fit autrefois. Mais la paix du Christ, ce n'est pas la Pax Romana, qui se fonde sur la force et qui, dans le cas présent, serait aussi une épreuve de force militaire avec la Chine et la Russie. Doit-on pour autant sacrifier les Syriens sur l'autel de notre tranquillité? Pas d'hésitation à avoir, non. Et l'activité diplomatique consiste précisément à reconfigurer le réel, à porter un regard nouveau sur les personnes, sur les situations. Elle consiste à extraire les uns et les autres de leur schéma pour envisager d'autres perspectives. Personne ne veut perdre la face dans un conflit. Personne n'a envie d'être humilié. Et le meilleur moyen de sortir d'un conflit, c'est de transcender l'image que l'on a de soi. Sortir par le haut, comme on dit. Gagnant-gagnant, comme on dit aussi. C'est de permettre d'accéder à un nouveau stade. Et peut-être, finalement, de faire du conflit une crise. Une crise de laquelle peut sortir une nouvelle vérité. Une vérité qui, jusque-là, était simplement une potentialité. C'est ça, transcender. Comme pour les disciples, il faut quitter le Père pour obtenir cela. Abandonner l'image tirée tout droit de la tradition sans interprétation, sans réappropriation, sans adaptation à sa propre situation. N'avons pas ici même, en ce lieu, les moyens de dire à Bachar al-Assad qu'il aurait pu valoir infiniment plus que son père Hafez, en se comportant autrement. J'imagine que Kofi Annan lui aura signifié en d'autres termes. Et ce qui est vrai pour lui est aussi vrai pour les autres protagonistes qui manifestement tiennent ferme leur position, ignorant que reconnaître ses fautes et changer n'est pas le signe d'une faiblesse coupable ou honteuse, mais le signe d'une grande force morale. Bien des personnes, bien des associations, l'oratoire notamment, modestement, à sa manière, se sont évertués et s'évertuent encore à changer Madagascar, à rendre cette île autrement plus vivable pour tous. Mais la mécanique divine n'est pas une mécanique impitoyable qui broie tout sur son passage. Elle est souvent contrecarrée. Alors, l'Éternel suscite inlassablement de nouveaux pêcheurs d'hommes, pour faire de nouvelles situations, afin d'attirer à nouveau le monde vers un avenir autrement plus réjouissant. Amen.